Psaume 22. Christ, la sainte victime, abandonnée de Dieu, lorsqu'il accomplit l'expiation sur la croix. Ces versets occupent une place toute spéciale dans le livre des Psaumes. Nous y trouvons le juste fondement sur lequel sont basées toutes les bénédictions des rachetés, décrites dans les autres psaumes. Versets 1 et 2. Les deux premiers versets donnent le grand sujet de ce passage. Les souffrances expiatoires de Christ. Dans le cours du psaume, d'autres souffrances se sont placées devant nous, mais seulement pour conduire à celle-ci, la douleur suprême, l'abandon de Dieu. Dans ces versets, il n'est plus question des hommes et des supplices qu'ils ont infligés à Christ, le saint martyr, mais il nous est accordé de considérer les souffrances que le Seigneur a connues de la part de Dieu, comme la sainte victime, quand il a été fait sacrifice pour le péché. Les évangiles nous donnent l'histoire extérieure de cette œuvre merveilleuse. Le psaume 22 décrit les sentiments et les pensées de Christ lorsqu'il l'accomplissait. Ainsi, nous voyons dans ce psaume celui qui a été entièrement abandonné de Dieu. Dans sa détresse, il n'a trouvé aucun secours en Dieu. Les paroles de son rugissement n'ont pas d'écho auprès de Dieu. Son cri ne reçoit pas de réponse de Dieu. La nuit ne lui apporte aucun repos de la part de Dieu. Pourtant, celui qui connaît un tel abandon est le seul homme parfaitement juste de la terre. En outre, ce juste, bien qu'abandonné, garde une confiance inébranlable en Dieu. Il peut encore dire « Mon Dieu ». Et dans la conscience de sa propre perfection, il peut demander « Pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut ?» Des paroles de mon rugissement. Verset 3. L'abandon d'un homme parfaitement juste dans la détresse semble tout à fait incompatible avec les voies de Dieu envers les hommes. Cependant, nous savons qu'il ne peut y avoir aucune injustice en Dieu. Ainsi, nous apprenons des lèvres de Christ lui-même qu'en cette occasion unique et solennelle, Dieu était parfaitement juste en abandonnant le juste parfait. En effet, le Seigneur peut dire « Et toi, tu es saint ». Celui qui est abandonné de Dieu justifie donc pleinement Dieu. Pourtant, ces paroles font plus que nous garantir la sainteté de Dieu par l'abandon de Christ sur la croix. Elles soulignent la nécessité absolue pour Christ d'être abandonné lorsqu'il portait les péchés, afin que la sainteté de Dieu puisse être satisfaite et que l'homme puisse être béni. Ainsi, dans ce psaume merveilleux, la croix est placée devant nous, non pas pour exposer la méchanceté de l'homme, qui doit être jugé, mais pour présenter l'œuvre expiatoire de Christ. Celle-ci maintient la gloire de Dieu, assure la bénédiction du croyant et pose la base nécessaire à l'accomplissement de tout le conseil de Dieu. Dans sa vie d'obéissance parfaite, Christ a glorifié Dieu par sa bonté parfaite. Dans sa mort, il a glorifié Dieu en ce qu'il a été fait péché et a porté le jugement dû au péché. Il a déclaré par là, une fois pour toutes, que Dieu est un Dieu saint qui hait le péché et ne peut pas passer par-dessus. De plus, en portant les péchés et le jugement dû au péché, en étant fait péché et en subissant le châtiment du péché, Christ assure la bénédiction éternelle du croyant. Enfin, par l'œuvre expiatoire, la base juste pour l'accomplissement de tout le conseil de Dieu est posée. Dieu s'est proposé d'habiter au milieu d'un peuple qui le loue. Ici, c'est la louange d'Israël qui est surtout en vue. Mais cette même œuvre, par laquelle Dieu pourra demeurer pendant le règne millénaire au milieu d'un peuple qui le loue, lui permettra d'habiter avec les hommes et de les reconnaître comme son peuple, eux le reconnaissant comme leur Dieu, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre dans l'état éternel. Apocalypse 21, versets 1 à 3. Versets 4 et 5. Le cas unique de l'homme juste abandonné est mis en évidence par le contraste avec les voies de Dieu envers tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Toute l'histoire prouve que les pères qui se sont confiés en Dieu ont été délivrés. Certes, des justes ont pu subir le martyre, mais jamais auparavant un homme juste n'avait été abandonné de Dieu. Versets 6 à 8. En contraste avec les pères, nous voyons ici celui qui a été traité comme étant moins qu'un homme, Il a dû connaître dans toute son étendue le mépris exprimé ici par sept expressions différentes. Premièrement, il est considéré comme moins qu'un homme, un ver. Deuxièmement, comme n'ayant aucune valeur, non point un homme. Troisièmement, il est humilié, l'opprobre des hommes. Quatrièmement, méprisé par les Juifs, le méprisé du peuple. Cinquièmement, tourné en ridicule par les hommes, ils se moquent de lui. Sixièmement, il est l'objet de leurs insultes, ils ouvrent la bouche contre lui. Septièmement, de leur risée, ils hochent la tête, ils se confient à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Versets 9 à 11. Pourtant, celui que les hommes ont méprisé et que Dieu a abandonné était le seul homme absolument juste, celui qui, dès son entrée dans le monde, a été caractérisé par sa confiance parfaite en Dieu. Il pouvait dire « Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère ». Il était aussi totalement dépendant, car il pouvait ajouter « C'est à toi que je fus remis dès la matrice » et parfaitement soumis. Tu es mon Dieu. Et cependant, le seul dont la confiance, la dépendance et la soumission à Dieu ont été absolument parfaites, du commencement à la fin de sa vie sur la terre, est plongé dans la détresse la plus profonde. Il n'y a personne qui secourt. Versets 12 à 15. Dans les versets qui suivent, l'épreuve est toujours présentée comme dispensée par Dieu, bien qu'elle soit considérée plus spécialement comme venant par la main de l'homme. Dans les versets 12 à 15, il s'agit de la haine mortelle de la nation juive. Dans les versets 16 à 20, c'est l'opposition des gentils à Christ. Enfin, dans la première partie du verset 21, le Seigneur est appelé à rencontrer la puissance du diable. Fermant les yeux à la raison et indifférent à la justice, avec une violence et une rage effrénées, comme le taureau déployant toute son immense force lorsqu'il est excité, les chefs de la nation juive se sont servis de leur position de puissance pour s'opposer mortellement au Seigneur. Pareil à un lion rugissant, s'acharnant sur sa proie, ils étaient déterminés à mettre Christ à mort. Aucune souffrance physique n'a été épargnée au Seigneur, car dans cette position terrible, il a dû subir l'épreuve sous toutes ses formes. La prostration totale, l'élongation de chacun des membres de son corps, la soif, tout est placé devant nous dans ce psaume. Néanmoins, le Seigneur ne s'arrête pas à l'homme qui est la cause directe de ses souffrances. Il voit la main de Dieu. Il peut dire « Tu m'as mis dans la poussière de la mort ». Il a devant son âme sainte non pas simplement la méchanceté de l'homme, mais plutôt la sainteté de Dieu qui emploie l'homme pour exécuter sa volonté. Versets 16 à 18. Les versets 16 à 20 placent devant nous l'opposition des gentils à Christ. Semblables à des chiens, agissant sans cœur et sans conscience, ils livrent à la mort celui qu'ils reconnaissent être innocent. Ils percent ses mains et ses pieds, et avec brutalité et insensibilité, ignorant la honte et la compassion, ils le regardent et jettent le sort sur ses vêtements. Verset 19, la première partie du verset 21. Deux fois dans le cours de ce psaume, Christ, la sainte victime, a crié à Dieu, lui demandant de ne pas se tenir loin de lui dans ses souffrances. Versets 1 et 11. Pour la troisième fois ici, il se détourne de ses persécuteurs et de ses souffrances pour regarder au-delà des hommes, à Dieu. Il peut dire « Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin ». Il apparaît ainsi clairement que si l'opposition des hommes nous est présentée, ce n'est pas tellement pour montrer leur terrible méchanceté, une méchanceté qui, dans d'autres psaumes, appelle le jugement, mais plutôt pour mettre en évidence que même dans les souffrances causées par les hommes, le Seigneur n'a pas obtenu de secours de Dieu. Ainsi, l'abandon total de la croix, en vue de l'expiation, est placé devant nous. Néanmoins, dans la détresse, la confiance de Christ en Dieu demeure inébranlable. Si, dans sa sensibilité parfaite, il a ressenti les souffrances infligées par l'homme, il les reçoit comme venant de Dieu. Verset 15. Aussi, est-ce à Dieu seul qu'il regarde, pour trouver aide et soulagement. Une triple délivrance est attendue. D'abord de l'épée du jugement, puis de la puissance de l'homme, et enfin du pouvoir de Satan, de la gueule du lion. Toutefois, le Seigneur doit subir le jugement avant que la délivrance puisse intervenir. Il faut que la parole de l'Éternel prononcée par le prophète ait d'abord son accomplissement. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Zacharie 13, verset 7. Verset 21, deuxième partie. La souffrance sous toutes ses formes a été endurée. L'inimitié des Juifs, l'opposition impudente des gentils, la méchanceté de Satan, et par-dessus tout l'abandon de Dieu lors de l'expiation. Quand tout est achevé, que l'œuvre infinie de l'expiation est accomplie, que le point culminant des souffrances représenté par les cornes des buffles est atteint, alors seulement le cri de la sainte victime est entendu et la réponse vient. Christ peut dire « Tu m'as répondu ». La résurrection est pour l'homme la preuve que Christ a été entendu et que son œuvre a été acceptée. Néanmoins, Christ lui-même a conscience d'être entendu et accepté au moment même où l'œuvre de l'expiation est achevée. Aussi, les évangiles nous montrent-ils le Seigneur s'exprimer tout de suite dans le langage de la communion parfaite. Il ne dit plus « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, verset 46. Nous passons aussitôt sur le terrain de la résurrection, et alors, dans la seconde partie du psaume, nous avons les résultats bénis de l'œuvre de Christ sur la croix. Les souffrances de Christ à la croix ont un double caractère. Le Seigneur a souffert en martyr patient de la part des hommes. Il a souffert comme la sainte victime sous la main de Dieu. Ses douleurs comme martyr appellent le jugement d'un Dieu saint qui ne peut rester indifférent aux insultes accumulées sur Christ. Aussi, les psaumes qui présentent ses souffrances endurées comme martyrs, tels le psaume 69, parlent-ils également du jugement de ses ennemis. Ses douleurs, comme la sainte victime, ouvrent la voie de la bénédiction pour l'homme. Dans notre psaume, nous avons alors un fleuve de grâce qui jaillit de la croix et coule en s'élargissant. Versets 22 à 24. Cette bénédiction est liée à la déclaration du nom de Dieu. Nous savons que c'est le nom du Père qui révèle le cœur du Père et toutes les bénédictions qu'il s'est proposées. Ce nom est annoncé par Christ ressuscité aux quelques disciples qu'il avait rassemblés autour de lui sur la terre et qu'il nomme pour la première fois ses frères dans son message « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. Un peu plus tard, alors que les disciples étaient assemblés, les portes étant fermées, le Seigneur apparaît au milieu d'eux et remplit leur cœur de joie. Il entonne la louange. La bénédiction n'est pas limitée aux quelques-uns réunis avec le Seigneur au milieu d'eux. Elle concerne tous les fidèles en Israël qui craignent le Seigneur. Il faut qu'ils sachent que Dieu a accepté le grand sacrifice. Il n'a pas méprisé, ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face de lui. Mais quand il a crié vers lui, il l'a écouté. Nous n'apprécions peut-être que faiblement l'immensité du sacrifice expiatoire. Toutefois, notre bénédiction dépend non pas de la mesure de notre estimation, mais de l'appréciation parfaite et de la satisfaction infinie de Dieu à l'égard de l'œuvre de Christ. Versets 25 et 26. Le fleuve de la grâce s'élargit encore, car maintenant il est parlé de la grande congrégation. C'est Israël dans son entier, réuni et restauré pour la bénédiction du millénium. Christ conduira la louange des siens et accomplira chacune des promesses faites. Alors, effectivement, les débonnaires mangeront et seront rassasiés, l'Éternel sera loué, et il n'y aura plus de cœurs brisés et vides, mais ce seront des cœurs qui vivront à toujours dans la plénitude de la joie. Versets 27 à 29. La bénédiction s'étend encore jusqu'à embrasser les bouts de la terre et toutes les familles des nations. Tous se souviendront de ce que Christ a accompli sur la croix. Ils se tourneront vers l'Éternel et se prosterneront devant lui. Celui qui a été rejeté par les hommes dominera au milieu des nations. La bénédiction atteindra toutes les classes, ceux qui sont dans la prospérité, les gras de la terre, ceux qui sont dans la misère, prêts à descendre dans la poussière, et les pauvres qui ne peuvent pas faire vivre leur âme. Versets 30 et 31. Enfin, la bénédiction se déversera tout au long du millénium jusqu'aux générations à venir. Sa justice, manifestée dans le sacrifice expiatoire, dans l'exaltation de Christ et dans l'abondance des bénédictions, sera racontée à une génération qui naîtra. Et l'immense foule des rachetés se plaira à reconnaître qu'il a fait ces choses. Ce vaste fleuve de bénédictions, qui apparut comme un petit ruisseau au milieu de quelques disciples le jour de la résurrection, qui s'est enflé au cours des âges et qui coulera encore dans le millénium, s'élargissant pour embrasser tous les bouts de la terre et s'étendant à des générations qui ne sont pas encore nées, a ses sources pures dans les souffrances expiatoires de Christ. Il a fait ces choses. La réponse au cri exprimé dans les ténèbres sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» viendra du milieu d'une foule innombrable d'adorateurs introduits dans la bénédiction éternelle et qui pourront dire en regardant en arrière, à la croix, « Il a fait ces choses ».